que nous avions vu justement les conflits nous avions commencé à voir les conflits qui avaient éclaté dans l'assemblée de Bethesda à la suite de l'intervention de Darby et les doctrines de Darby en particulier. Une des doctrines aussi de Darby, c'était que Israël est aussi, comment dirais-je, fait partie de l'Église. Ça, c'est une théorie assez amusante, mais enfin qui est tout à fait dans la vision souvent chrétienne. Enfin, Israël fait partie de l'Église, du moins la partie d'Israël qui est fidèle dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que des gens comme Abraham, comme Isaac, comme David, comme les prophètes, en fin de compte, font partie du corps de l'Église. Elles sont la véritable Église et le véritable Israël. Et puis en même temps, il fait une autre différence. Il y a Israël aussi. Bon, il est gêné aux entournures, n'est-ce pas? Il y a l'Israël incrédule qui est quand même Israël, quoi. Alors bon, c'est pas très clair tout ça. Et pour Darby, la majeure partie du Nouveau Testament s'applique non pas à l'Église actuelle, mais à la dispensation où Israël aura rejoint l'Église, en quelque sorte. Et par exemple, il constate que l'évangile de Matthieu est l'évangile du royaume, et c'est un évangile qui est adressé non pas à l'Église pour lui, mais qui est adressé à Israël. C'est là que naît donc, c'est un des éléments du conflit qui l'oppose à Newton. Newton lui rétorque en effet que si on fait cette distinction-là, on annule tout simplement le christianisme et que la majorité du Nouveau Testament n'est plus valable. Plus valable pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que le Nouveau Testament peut nous apporter pour aujourd'hui? Et c'est ainsi que le dimanche 26 octobre 1845, il y a cassure, enfin, entre Darby et Newton, et Darby fonde les églises, ou les assemblées plus exactement, darbistes, ainsi nommées parce que, bien entendu, elles portent le nom de leur fondateur. Alors, il y a aussi en Suisse un homme qui rejette les vues de Darby, c'est Auguste Rochat, qui constate que la Bible est quelque chose qui s'adresse à des individus d'abord, beaucoup plus qu'à des entités, des églises, et que si l'on suit les raisonnements de Darby, la majorité du Nouveau Testament serait inapplicable aujourd'hui. Et à partir de là, donc, va naître ce conflit terrible qui va avoir des conséquences extrêmement graves, en sorte que, malgré différentes tentatives de conciliation, à la fin de 1845, l'année 1845, une autre église est fondée à Plymouth. Darby va poursuivre de sa vindicte Newton, et en particulier, il accuse de trop insister sur le côté humain des souffrances de Jésus, et par conséquent, de minimiser la divinité de Jésus au profit de son humanité. Ça, c'est toujours le problème. Quand on commence à toucher à ces problèmes-là, on ne sait jamais trop où on va. En novembre 1847, Newton, dans un esprit de conciliation, reconnaît être allé un peu trop loin dans ce domaine-là et avoir commis, de ce fait, un certain nombre d'erreurs doctrinales. Il s'en humilie. Et il déclare qu'il revient maintenant à une vue plus juste des problèmes, de la question. En fait, les erreurs, entre guillemets, de Newton étaient bien minces, mais enfin, bon, il avait réagi spirituellement et il avait donc accepté d'être celui qui faisait le premier pas. Darby refuse d'accepter les rétractations de Newton et malgré des déclarations très claires que Newton a faites, il tente de montrer que, en fin de compte, Newton n'a pas vraiment renoncé à son erreur. Et il déclare que c'est un blasphémateur et l'ennemi numéro un de l'Évangile. C'est formidable, n'est-ce pas? Ce sont ceux qui sont les plus proches, qui sont les plus ennemis. Décembre 1847, dégoûté, Newton jette l'éponge et se retire. Darby triomphe et déclare que quiconque gardera des contacts avec Newton sera excommunié. toutes les assemblées doivent rompre avec l'assemblée de Bethesda, dont Newton est le responsable. Et c'est ainsi que, le jour de Noël 1848, le colonel Woodfield, qui était proche de Newton, déménage de Plymouth à Bristol, parce qu'il veut quitter cette atmosphère empoisonnée, et il arrive dans l'assemblée de George Müller. Et c'est alors que les problèmes vont commencer pour George Müller. Darby déclare qu'il rompt avec l'assemblée de George Müller, parce que des disciples de Newton y sont reçus. Alors, on se rassemble pour décider de ce que l'on fait du colonel Woodfield, et les anciens refusent d'excommunier Woodfield et ceux qui l'ont accompagné. Alors, Darby déclare qu'il rompt les contacts avec l'assemblée de Bristol. Il demande à toutes les assemblées de rompre les contacts avec Bristol. Il gardera, il déclare qu'il excommuniera toute assemblée qui gardera des contacts avec l'assemblée de Bethesda. Le 31 octobre, George Müller annonce publiquement qu'il condamne les erreurs de Newton. Erreurs entre guillemets, hein, c'est des erreurs bien minces. Mais enfin, George Müller aussi, par esprit de conciliation, décide donc de prendre cette position officielle. Il va plus loin encore et décide que personne professant l'enseignement de Newton ne sera reçu dans son assemblée. On ne peut pas mieux dire. Donc, en juillet 1849, il y a une tentative de réconciliation avec Darby. Et notamment, Darby vient à Bristol pour essayer de s'arranger avec George Müller et les anciens. Darby, néanmoins, déclare qu'il ne veut pas régler cette question en 10 minutes, parce que Darby est un homme pressé. Il dit « c'est une affaire qui peut être réglée en 10 minutes ». George Müller dit non, c'est une question qui est profonde, qui me demande qu'on s'y attache vraiment. Et Darby se fâche, c'est un homme irascible, il se lève et il part en claquant la porte, en excommuniant donc l'assemblée de Bristol. C'est vraiment simplement parce que George Müller voulait traiter le problème en profondeur. Darby, donc, reste maître du champ de bataille, si j'ose dire. Il a excommunié tout le monde, il est le plus fort. Mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que les unes après les autres, les assemblées rompent avec Darby. Et en fin de compte, c'est Darby lui-même qui sera accusé d'hérésie, nous avons vu, par des gens comme Rochat, ou par d'autres, n'est-ce pas, qui vont lui reprocher ses positions extrémistes que nous avons évoquées plus haut. Et cette période des excommunions et des contre-excommunions dure des dizaines d'années. C'est quelque chose d'absolument terrifiant. Vient sur le tapis la question du baptême. Forcément, Darby n'est pas au-dessus de tout soupçon. Étant lui-même partisan du baptême des enfants, forcément, il ouvre le flanc à des attaques de la part de ceux qu'il a excommuniés, qui disent, mais après tout... Darby lui-même est hérétique puisqu'il accepte le baptême des enfants. Et on lui retourne donc le compliment qu'il a attribué à d'autres. Et malgré tout, Darby ne cède pas. C'est un homme qui ne plie pas facilement. Et il déclare erreur, hérésie, tout ce qui ne correspond pas à ses propres vues, tout ce qui ne correspond pas à ses propres interprétations. Alors là, évidemment, on est à côté de la plaque qu'on comprend complètement. Il est certain que la Bible prévoit dans des cas extrêmes l'excommunication. Ça, c'est quelque chose qui est profondément biblique. Mais lorsque nous lisons les enseignements de Paul dans les deux épîtres aux Corinthiens notamment, il est clair que le motif premier d'excommunication est une conduite déréglée. Une conduite déréglée sur le plan des mœurs, sur le plan de la violence, sur le plan de l'honnêteté, etc., du mensonge éventuellement. Dans des cas extrêmes, bien sûr aussi l'hérésie, c'est-à-dire l'erreur doctrinale grave. Mais il est clair que pour des interprétations mineures, pour savoir si Israël fait partie de l'Église ou pas, etc., c'est des choses ça, qui ne sont pas des motifs d'excommunication, bibliquement parlant. Paul nous montre qu'il peut y avoir une certaine pluralité de vues. Il dit, au point où nous en sommes arrivés, marchons d'un même pas, et si quelqu'un d'un autre avis, le Seigneur l'éclairera. Il parle des faibles et des forts, de ceux qui pensent qu'ils peuvent manger de tout, de ceux qui pensent pas que... bon, etc. Donc il y a une certaine tolérance au niveau des opinions, n'est-ce pas, sur des choses secondes. Bon, sur des choses essentielles, bien sûr, quelqu'un qui nierait la divinité de Jésus, quelqu'un qui remettrait en cause la résurrection ou la naissance virginale, ça poserait vraiment problème dans une église, c'est évident, n'est-ce pas? Et là, il faudrait intervenir. Mais pour des questions de l'ordre, de celles qui divisaient les assemblées des frères, c'était vraiment hors de proportion, c'était tout à fait déplacé. Alors, les choses sont ainsi. Pour Georges Müller, c'est un moment extrêmement difficile, d'autant plus que quelques années plus tard, sa fille Lydia est atteinte de typhoïde. Et il dira dans ses mémoires que c'est la plus grave épreuve de sa vie, le manque de la perdre, ce qui ne l'empêche pas de continuer son travail malgré cette situation difficile. Et c'est ainsi qu'en juin 1856, il ouvre un second orphelinat. C'est l'époque où, un jour, il reçoit une lettre, une personne de ses amis lui écrit en disant, Monsieur Müller, vous êtes un homme d'une consécration remarquable, d'une abnégation remarquable, vous n'avez jamais pensé à vous-même. À cette époque-là, il n'y avait pas, enfin, les caisses de retraite étaient beaucoup plus sommaires qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il dit, mais il serait bon que vous pensiez mettre un peu d'argent de côté pour votre retraite. Je sais bien que vous ne le faites pas. Alors, pour votre vieillesse, plus exactement, vous ne le faites pas. Alors voilà, 6 juin ici, un don que vous pourrez mettre de côté, qui sera pour votre vieillesse. Et Georges Müller, qui reçut de cette lettre, a répondu à cette dame, merci beaucoup pour votre délicate attention. Elle m'a beaucoup ému, beaucoup touché, mais je vous renvoie le don. Je ne peux pas l'accepter si c'est pour moi. Maintenant, si vous voulez le mettre pour les œuvres, alors là, il sera le bienvenu. Mais si c'est pour moi, pour mon compte personnel, j'ai appris à me confier en Dieu en tout. Et c'est pas pour ma vieillesse que je vais me faire du souci, n'est-ce pas? Le Seigneur, là aussi, pourvoira. Je ne me souviens plus comment ça s'est terminé. Il me semble que la dame a répondu que il utilise cette somme comme il l'entendait. Et donc, si ma mémoire est bonne, il l'a mise pour la deuxième maison en particulier. En 1870, il a 4 orphelinats qui accueillent 2000 orphelins. N'est-ce pas? Et dans ce contexte-là, il ne s'occupe plus du tout de Darby, il ne s'occupe plus des conflits qui ont divisé les assemblées. Il continue son œuvre sans aucune autre préoccupation. En 1866, éclate un réveil dans les orphelinats, car dans les orphelinats, bien sûr, il prêche l'évangile. Et le réveil commence au travers d'une jeune fille de 17 ans, qui se nomme Eva de Burne, qui se convertit, Emma, pardon, Emma, qui se convertit, et elle va entraîner la conversion de 500 jeunes filles. 500 jeunes filles vont se convertir à cette période-là. C'est cette même année, le 22 janvier, que meurt Craig, son collaborateur. C'est évidemment un coup dur pour Georges Müller. Et il va donc poursuivre la tâche tout seul dans ses difficultés, alors qu'il continue toujours à être attaqué d'une manière venimeuse par Darby. En 1867 a lieu à Paris l'Exposition universelle, fameuse exposition universelle qui draine des milliers de personnes, et Georges Müller se rend à Paris pour ouvrir un stand biblique à cette exposition universelle. Et là, pendant tout le temps où va durer l'exposition universelle, il va distribuer des centaines et des milliers de Bibles, n'est-ce pas? Cette distribution de Bibles est un immense succès, tellement que l'exposition universelle terminée, Georges Müller va poursuivre ce travail dans les pays qui sont sous-évangélisés, les pays latins. Il a constaté combien grande était l'ignorance de la Bible en France, marquée par le catholicisme en particulier. Et il pense à un autre pays qui lui aussi est dans les ténèbres par rapport à la Bible, c'est l'Espagne. Et l'exposition universelle terminée, il rassemble des milliers de Bibles et en espagnol qu'il va donc distribuer dans un grand voyage dans toute l'Espagne pour distribuer justement des Bibles. Georges Müller est un homme qui croit, et c'est là, les conflits avec Darby durent pendant toute cette période très aiguë, il croit au retour de Jésus, bien que Darby ait prétendu le contraire, mais à l'inverse de Darby, il est sobre sur la manière dont le Seigneur reviendra. Il se garde de donner trop de détails, constatant d'ailleurs que c'est à force de donner trop de détails que naissent les querelles, finalement les discussions vaines dont parle l'apôtre Paul, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui les écoutent. Et par rapport à ce que nous penserions, n'est-ce pas? Darby est quelqu'un qui ne croit pas à l'enlèvement, mais il croit au retour en gloire de Jésus uniquement, n'est-ce pas? Le retour en gloire, parce que Darby fait une différence entre l'enlèvement puis le retour en gloire. Bon, pour lui, 3 ans et demi après, Georges Müller dit qu'il pense, lui, que les deux événements sont simultanés. Bon, c'est son idée. Après tout, pourquoi pas? C'est une interprétation possible, même si ça ne semble pas être la plus probable, n'est-ce pas? Au début de l'année 1870, Madame Müller tombe malade. Elle meurt le 6 février de la même année. Elle a 73 ans à cette période-là. Et le 4 août de l'année suivante, le 4 août 1871, sa fille Lydia, qui a survécu à sa typhoïde, se fiance avec un certain Monsieur White, qui va devenir un des principaux collaborateurs de Georges Müller. Le 10 novembre, le mariage est célébré, et le 30 novembre, Georges Müller lui-même se remarie avec une certaine Miss Rangone. James White, son gendre, est nommé directeur de ses œuvres en 1872, c'est-à-dire que Georges Müller va laisser à son gendre l'essentiel de la responsabilité de la gestion des orphelinats qu'il a créés. Lui-même va se consacrer à toute une autre partie de sa tâche. Il a passé 70 ans à cette période-là, mais bien qu'il se décharge sur un homme de confiance de l'œuvre de sa vie, il ne reste pas inactif pour autant. En 1874, il écrit un livre sur ses expériences, par lesquelles il montre comment Dieu a été fidèle, ce qu'a été toute sa vie, le thème de toute sa vie, montrer que Dieu est vivant, parce que Dieu agit en réponse à la foi. Il écrit un livre sur ce sujet-là. La même année 1874, sa nouvelle femme tombe malade, et pour la santé de cette dernière, il va passer un temps dans l'île de Wight. C'est alors que là, il décide de se consacrer au ministère de prédicateur itinérant. Et à partir de 1875, il abandonne totalement la responsabilité des orphelinats et de l'assemblée de Bristol pour se consacrer uniquement à des voyages. Il effectue un voyage entre août 1976 et juin 1977 qui l'amène en France, en Suisse, en Allemagne, en Hollande. Et partout, il donne le témoignage de ce qu'a été sa vie, de ce qu'a été son ministère, de ce qu'a été sa vision. Entre août 1977 et juillet 1978, il se rendra au Canada et aux États-Unis. Et là, il est reçu à la Maison Blanche par le président des États-Unis lui-même, qui a entendu parler de son aventure. Georges Müller est devenu une grande figure du monde chrétien. Et puis ensuite, il a la possibilité de prêcher l'Évangile, de donner son témoignage devant la Chambre des représentants, c'est-à-dire qui est la chambre basse du Congrès des États-Unis. Entre septembre 1978 et juin 1979, il effectue un nouveau voyage en Suisse, en France, en Espagne et en Italie. Et là, il passe par Menton, où il rencontre Madame Spurgeon. On se souvient que Spurgeon était un habitué de Menton. En 81, il se rendra à nouveau aux États-Unis, au Canada. Puis entre août 80 et mai 82, alors il continue l'Allemagne, l'Égypte, Israël, l'Asie mineure, la Turquie, la Grèce. Il prêche à des pèlerins russes en particulier qui sont en route pour la Terre Sainte et puis aux Juifs. Georges Müller a toujours eu un fardeau particulier pour le peuple d'Israël. Au début de son ministère, de sa vocation, il voulait d'abord être missionnaire parmi les Juifs. Et finalement, le Seigneur en a décidé autrement, il a suivi un autre cheminement, mais il n'a jamais oublié les Juifs, et c'est une des raisons pour lesquelles aussi il va se rendre en Israël. En 1883, il se rend aux Indes. Il a 79 ans à cette période-là. Et l'année suivante, 2 ans plus tard, en novembre 85, il vient d'avoir 80 ans, il part pour l'Australie, la Chine, le Japon, la Malaisie. Un homme véritablement infatigable. En Nouvelle-Zélande, en 87, un nouveau voyage qui l'amène en Nouvelle-Zélande, Ceylan, l'Inde, et c'est à Calcutta que, incommodé par la chaleur, il tombe malade. Dans cette situation, il apprend la mort de sa fille, sa fille Lydia, qui est restée en Angleterre. C'est la raison pour laquelle, en mai 90, il revient à Bristol pour reprendre contact avec les siens, donc avec son gendre et puis les enfants. Mais il repart aussitôt pour un nouveau voyage en Suisse et en Allemagne. Il a 85 ans à cette période-là. Et c'est en 91-92 qu'il effectuera son dernier voyage, qui l'amène en Allemagne, en Hollande, en Autriche, en Italie. Il considère que c'est pour lui la période la plus fructueuse de sa vie, la plus fructueuse de son ministère. Le 17 janvier 1895, sa deuxième femme décède, et lui-même la suivra de peu, puisque le dimanche 6 novembre 1998, il prêche pour la dernière fois, et il meurt quelques jours plus tard. Ça, après un ministère donc tout à fait exceptionnel et tout à fait extraordinaire. Avec Georges Müller, c'est un des derniers grandes figures du protestantisme anglais en particulier. À côté donc du mouvement des frères de Plymouth, il y a un autre. Les frères de Plymouth vont s'organiser. On l'a dit la dernière fois. Je reviens très rapidement en deux groupes. Donc les églises darbistes ou frères étroits et les frères larges, n'est-ce pas, par opposition justement aux darbistes. Autre mouvement qu'il convient de signaler à cette période-là en Angleterre, c'est le mouvement irvingien, qui va connaître son heure de gloire entre 1792 et 1834. Les Irvingiens, du nom de Irving, qui est leur fondateur, sont des gens qui pensent que la succession apostolique peut se retrouver. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils s'interrogent sur cette question de la succession apostolique qui est quelque chose auquel les églises historiques attachent une grande importance, l'église catholique d'abord, les églises orthodoxes aussi, et puis l'église anglicane. L'église d'Angleterre prétend aussi être basée sur la succession apostolique. Irving déclare que finalement ce qu'on appelle la succession apostolique n'est pas vraiment la succession apostolique, mais qu'il est vrai que pendant toute l'histoire de l'église, Dieu a toujours suscité des apôtres. Ces apôtres, on ne les a pas reconnus comme tels, mais ils existent néanmoins. Et que le temps est venu, justement, de reconnaître que Dieu continue à susciter des apôtres et que l'apostolat n'était pas, comme le pensaient Luther et Calvin et puis ceux qui l'ont suivi, c'est pas quelque chose qui était réservé uniquement pour le début de l'histoire de l'Église, pour la période du Nouveau Testament. Et Irving considère que on peut retrouver ce ministère, mais que c'est au Seigneur de le désigner. Et le désigner par une nouvelle descente du Saint-Esprit, par une nouvelle Pentecôte. Et Irving et ses partisans prient pour une nouvelle Pentecôte, une nouvelle descente du Saint-Esprit. Et le Seigneur répond à cette prière, bien avant la venue du mouvement de Pentecôte. Il y aura des manifestations charismatiques en milieu irvingien. D'ailleurs, les églises irvingiennes existent jusqu'à nos jours. Elles ont pratiquement rejoint le mouvement de Pentecôte aujourd'hui. Mais elles en ont été vraiment elles ont précédé d'un bon siècle le mouvement de Pentecôte proprement dit. Alors, il y avait les cas de glossolalie. Parler en langue était monnaie courante dans les églises irvingiennes, et aussi, bien entendu, la guérison. Irving organise son église à partir justement du ministère de l'apôtre, avec une hiérarchie complexe qui est certainement discutable, parce que peut-être pas tellement spirituelle, en particulier, il nomme 12 apôtres. Douze apôtres, il prétend qu'à chaque époque, il y a douze apôtres et que quand un meurt, il faut le remplacer. Les apôtres sont désignés par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que une prophétie désigne qui est apôtre. En fin de compte, non, excusez-moi, ils n'ont pas de successeur. Ce sont douze apôtres qui sont renommés par le Saint-Esprit. Irving estime qu'on est tout près du retour du Seigneur et que les douze apôtres ne mourront pas que le Seigneur ne soit revenu. Donc il n'est pas nécessaire de prévoir des successeurs. Bon, en fin de compte, bien entendu, sur ce plan-là, il se trompait. D'ailleurs, ces douze apôtres étaient-ils vraiment des apôtres? Bon, ça c'est un autre problème. Et l'idée de base d'Irving d'une présence apostolique est une question qui va être posée aux églises évangéliques. Et à notre époque, n'est-ce pas, c'est en particulier l'église apostolique qui va reprendre justement cette idée des ministères selon Éphésiens 4. En Allemagne, le mouvement aussi va se développer, c'est là finalement qu'il va se développer le plus, et aujourd'hui, il porte le nom d'église néo-apostolique en Allemagne. Dernier point, et nous en aurons fini avec le protestantisme anglo-saxon, l'ultramontanisme. On a déjà parlé, j'y reviens simplement. L'ultramontanisme est un mouvement qui se développe à l'intérieur de l'Église d'Angleterre et qui va connaître un certain nombre de vicissitudes. Au départ, il est animé par deux hommes qui se nomment Newman, 1801-1890, et Pelsey, 1802-1882, qui sont attirés par le mouvement de Plymouth. Et puis, quand il voit évidemment où ce mouvement des frères conduit, les querelles à propos entre Darby et Newton, etc., ils vont refluer à fond, n'est-ce pas, vers la High Church, la haute église anglicane. Et de là, ils vont se poser la même question que Irving, le problème de la succession apostolique. Si vraiment il y a succession apostolique, alors l'église qui a gardé le plus la notion de succession apostolique, c'est l'église catholique. Et par conséquent, il serait bon que l'unité avec l'église catholique, entre l'église d'Angleterre et l'église catholique, soit reformée. Irving et Pelsey vont donc contribuer au rapprochement entre l'église anglicane et l'église catholique, d'où le nom de ultramontanisme, ultramontain, c'est-à-dire les monts au-delà des monts des Alpes, n'est-ce pas ? Et bien entendu, ils vont se heurter à une fin de non-recevoir de la part de l'essentiel de l'establishment de l'Église anglicane, de telle sorte que finalement, ils font le pas à tous les deux, n'est-ce pas, eux, ils vont quitter l'Église d'Angleterre pour rejoindre l'Église catholique. Newman, comme nous l'avons dit, deviendra cardinal. Pelsey restera dans l'Église d'Angleterre, mais il essaiera toujours de promouvoir ce rapprochement entre l'Église catholique et l'Église anglicane. Un mot simplement de l'Écosse, très rapidement, où éclate en 1843 un réveil dans l'église presbytérienne, qui est l'église d'État en Écosse, et le réveil va provoquer une scission avec l'église presbytérienne. Donc, va s'organiser à côté de l'église presbytérienne une église libre, qui rejoindra l'Église presbytérienne une ou deux générations après. Donc c'est un mouvement, si vous voulez, de courte durée. C'est la raison pour laquelle il est peu utile que nous nous y arrêtions. Voilà donc pour ce qui concerne, si vous voulez, le protestantisme en Angleterre, au XIXe siècle. Nous entamons un nouveau chapitre maintenant, le protestantisme nord-américain, au XIXe siècle également. En Amérique, il y a, au début du 19e, un profond assoupissement spirituel. Et ça et là, de nombreux chrétiens aspirent à une nouvelle visitation du Saint-Esprit, autrement dit à un réveil. Et les exemples de ce qui se passe en Angleterre, les réveils, qui, dans la mouvance de Wesley et des réveils du siècle précédent, secoue périodiquement l'Angleterre, provoque aux États-Unis une sainte jalousie. Et ça et là, un peu partout, des petits conventicules secrets spontanément, de gens qui se rassemblent à quelques-uns dans une chambre, souvent, pour prier pour le réveil. Aux États-Unis, il y a un autre problème qui empoisonne la société américaine en particulier, c'est le problème de l'esclavage des Noirs. N'est-ce pas ? Les Noirs ont été déportés dans les siècles précédents, comme ils l'ont été d'ailleurs dans toutes les possessions coloniales, notamment aux Antilles, par les Français, par les Anglais, etc. Quoique nous, Français, on n'a pas tellement de leçons à donner aux Américains dans ce domaine-là, parce que c'était exactement la même chose. Et notamment, ces Noirs américains ont été envoyés pour travailler les plantations du sud des États-Unis, tant et si bien que le problème noir se pose essentiellement dans les États du Sud. Dans les États du Sud, l'esclavage des Noirs est une institution économique vitale, sans laquelle les plantations ne pourraient pas fonctionner. Le travail du coton, notamment, est un travail extrêmement minutieux qui exige une main-d'œuvre abondante et on n'envisage pas de pouvoir se passer justement de la main-d'œuvre noire. Mais ça et là, un certain nombre de chrétiens commencent à considérer que c'est une abomination de traiter ainsi des êtres humains. Et un mouvement anti-esclavagiste va naître aux États-Unis. Il est évident que ce mouvement anti-esclavagiste va se concentrer essentiellement dans les États du Nord, qui ne sont pas concernés par le problème des Noirs. Et il est évidemment beaucoup plus facile pour des gens qui n'ont pas besoin d'une manœuvre noire de prendre fait et cause pour la libération des Noirs que des gens du Sud qui, eux, sont confrontés à un tout autre type de problème. Et deux romans à grand succès vont contribuer à cristalliser ces deux positions absolument opposées, n'est-ce pas ? Le premier est celui de Harriet Beecher Stowe, que vous avez certainement lu, La case de l'oncle Tom. Harriet Beecher Stowe était une chrétienne engagée, une chrétienne dont le frère d'ailleurs deviendra un des grands revivalistes de l'Amérique du 19e siècle, et qui écrit ce roman poignant après avoir elle-même eu contact avec les Noirs des États du Sud. Et le livre de La case de l'oncle Tom va être une véritable bombe à retardement qui contribuera pour une grande part à la guerre de sécession, finalement, et cette guerre pour la libération des Noirs, puisque finalement on va arriver à ça. À ce livre répond un autre livre qui sera aussi un livre à succès, qui est « Autant en emporte le vent », qui est écrit par quelqu'un du Sud, n'est-ce pas, et qui essaie de démontrer dans ce livre que finalement, toucher à l'esclavage des Noirs, c'est amener la ruine des Noirs eux-mêmes, n'est-ce pas ? Parce que de quoi vont-ils vivre ? Et puis finalement, de tous les États du Sud. Alors voilà, il y a un débat ici qui est un débat bloqué. Petit à petit, les États-Unis vont se diviser en deux blocs. Ce n'est pas absolument systématique. Mais disons que, d'une manière générale, les États du Nord vont être abolitionnistes, anti-esclavagistes, et le champion de la libération des Noirs sera un avocat du nom d'Abraham Lincoln, qui deviendra président des États-Unis, avec le programme, justement, élu avec le programme de libérer les Noirs. Et puis, le Sud, grosso modo, lui, sera esclavagiste, disons. Et le débat monte entre les deux parties des États-Unis, tant et si bien que lorsque Abraham Lincoln est élu président de la République et qu'il annonce dans son programme qu'il entend mettre fin à l'esclavage des Noirs, les États du Sud, en 1865, font sécession. Et s'organise en confédération dont la capitale est Richmond, rivale de Washington. Par conséquent, il y a deux entités qui se sont créées maintenant aux États-Unis. Les États-Unis sont divisés en deux, une division politique. Le Nord n'accepte pas la sécession des États du Sud. et décide d'y mettre fin par la guerre. Menace Richmond de faire la guerre si Richmond s'obstine à rester hors de la Confédération, et notamment de... Alors, il y a un débat, les États du Sud, n'est-ce pas, les confédérés, on les appelle, acceptent de rejoindre le Nord, enfin l'Union autour de Washington, à condition qu'on accepte que l'esclavage des Noirs continue. Pour Washington, il n'en est pas question. C'est ainsi que donc la guerre va éclater. 1865 éclate ce que les Américains appellent la guerre civile, Civil War, et que, en dehors des États-Unis, on connaît sous le nom de guerre de sécession. Cette guerre est une guerre terrible. C'est la première guerre moderne. Jusqu'alors, l'Amérique du Nord avait connu peu de conflits. Un conflit mineur qui avait mis fin à la colonisation anglaise, donc en 1776, et qui donc avait quand même été une bataille au cours de laquelle il y avait eu peu d'effusion de sang, la résistance britannique n'avait pas été terrible. Puis ensuite, ce qui avait marqué les États-Unis, c'était les guerres indiennes. Les guerres indiennes, avec la poussée vers l'ouest, ça c'est aussi un autre aspect évidemment de l'histoire des États-Unis au XIXe siècle, qui n'est pas non plus un des plus glorieux, on va y arriver dans un instant, n'est-ce pas ? Et voilà que maintenant éclate un conflit, un vrai conflit. Un conflit à l'européenne. Et un conflit qui sera la première guerre moderne avec l'emploi de moyens modernes, télégraphes, navires cuirassés, les prototypes du sous-marin, l'emploi des ballons captifs, etc. etc. Et là, donc, ça va être une guerre horrible, sans pitié, c'est pas, qui va ravager les États-Unis et qui se terminera par la victoire du Nord, après donc... des vicissitudes qui feront que les confédérés approcheront de Washington. La balance va osciller entre le Nord et le Sud sans qu'au début la décision soit très très évidente. Des villes entières seront ravagées et puis finalement le poids du Nord va jouer et le Nord va l'emporter après donc pratiquement 1 million de victimes si on compte les pertes d'un côté comme de l'autre. Les Noirs sont donc libérés comme conséquence de la victoire du Nord. Et va naître alors un autre problème que précisément le roman « Autant emporte le vent » avait imaginé, à savoir que la majorité des propriétaires terriens qui faisaient la richesse du Sud sont ruinés. Donc c'est le Sud qui entre en récession. Et puis alors un énorme problème social avec les Noirs, n'est-ce pas ? Les Noirs qui sont théoriquement libérés sur le plan légal, mais qui finalement ne peuvent pas subsister. La liberté, ça nourrit pas son homme, il faut manger. Et pour manger, ils n'ont d'autre solution que de se réembaucher, cette fois-ci comme salariés, chez les planteurs qui les utilisaient comme esclaves, et qui vont les payer avec des salaires de misère, en fin de compte. De telle sorte qu'ils ne sont plus officiellement des esclaves, mais finalement, leur sort n'est pratiquement pas changé. Leur situation de misère n'est pratiquement pas changée, sinon que, en principe, ils ont la possibilité de réagir, ils n'ont plus le droit d'être battus, etc. Dans les faits, ils le sont. Alors, certains peuvent évidemment faire appel à des avocats, ils peuvent engager des procès, mais ils n'ont pas d'argent. Donc, automatiquement, les planteurs reprennent leurs droits sur eux. Né un problème social inextricable dont les États-Unis souffrent jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Le problème noir aux États-Unis est un problème aujourd'hui, peut-être le premier problème de ce pays jusqu'ici, cette fin de siècle. N'est-ce pas ? Et va naître alors un mouvement tout à fait particulier sur le plan spirituel. Avant la guerre de sécession, et notamment pendant la première partie du XIXe siècle, les Noirs américains vont être évangélisés. Il y a des gens comme Harriet Baker Stowe et des prédicateurs qui vont avoir compassion de ces hommes bien avant qu'il y ait la lutte pour les droits civils, n'est-ce pas? Il y a une lutte pour, comment dirais-je, d'une part, une amélioration de la condition de ces hommes, de ces femmes, n'est-ce pas? Et de ces enfants, souvent, qui sont vendus comme des bêtes, c'est ça. Vous avez ça dans la case de l'oncle Tom, les familles divisées, la femme vendue d'un côté, le mari de l'autre, les enfants un troisième maître, enfin, des choses horribles comme ça. Et donc, un certain nombre d'hommes et de femmes ont compassion de ces gens, et à défaut outre l'aide morale et matérielle qu'ils apportent à ces gens-là, il y a aussi la prédication d'évangile. Et pour ces hommes et ces femmes qui n'ont plus rien, qui n'ont plus aucune espérance, aucune perspective humaine, eh bien, la foi va être pour eux la corde de salut et va éclater au milieu des Noirs américains, des réveils, une série de réveils, les premiers réveils qui vont secouer les États-Unis, avant les grands réveils dont on va parler, c'est le réveil parmi les Noirs. Ils vont se créer donc après 1865, après la libération, la guerre de sécession, la guerre civile, vont se créer des églises noires, alors tout à fait particulières, qui vont être marquées par des prédicateurs sans instruction très souvent. Et c'est le style revival américain né là-bas, dans le sud des États-Unis, avec l'exubérance des Africains, parce que ce sont finalement des Africains transplantés ailleurs, qui sans aucune formation, ils n'ont pas de diplôme de théologie, ils n'ont rien, c'est pas, mais prennent la Bible, tout simplement, lisent la Bible et puis prêchent au milieu de toute une espèce d'effervescence. Et alors, marqué en particulier par la musique, et c'est là que naissent les fameux Negro Spirituals, les cantiques qui vont servir de base au jazz par la suite, le jazz étant une perversion du Negro Spiritual, si je ne m'abuse, entre autres, oui. Mais qui vont être le support de la spiritualité, justement, des Noirs américains. Et puis alors, qui va déteindre aussi sur le Sud tout entier, puis ensuite sur les États-Unis tout entier. Et bon, les Noirs vont migrer. Ils sont maintenant libres de leur mouvement après la libération qui suit la guerre de sécession. Et beaucoup s'expatrient pour essayer de trouver du travail dans le Nord. Et finalement, c'est plus seulement le Sud, après la guerre de sécession, qui va être confronté au problème noir, mais le Nord l'est aussi. Ça. Et vont se créer des véritables ghettos noirs dans les grandes villes américaines, par exemple Harlem, New York ou dans d'autres lieux, Los Angeles, les grandes villes de la côte ouest. Et là, il va y avoir une influence du revivalisme noir sur le revivalisme américain en général. Et l'exubérance, par exemple, du mouvement de Pentecôte n'est pas quelque chose qui est inhérent à l'effusion du Saint-Esprit, mais qui est un phénomène noir américain qui a ensuite passé au blanc, une espèce de manifestation culturelle, et puis de là qui est passé au pentecôtisme du monde entier, si j'ose dire un peu. Il y a des analyses sociologiques très intéressantes qui ont été faites à ce sujet-là. Ça, c'est le premier point, donc, ici, l'évolution de la situation aux États-Unis. Autre élément, n'est-ce pas, de l'histoire américaine de cette période-là, je l'ai cité tout à l'heure, c'est la ruée vers l'Ouest. Alors ça, évidemment, tous les enfants savent ça, connaissent ça. Le déplacement, n'est-ce pas, les conquêtes nouvelles. Alors, bon, la ruée vers l'Ouest a été mille fois comptée, c'est pas la peine d'y revenir. D'une part, immigration aux États-Unis de tous les éléments troubles de l'Europe entière, des gens qui n'avaient pas la conscience trop tranquille partaient aux États-Unis pour se refaire une virginité, et puis donc aller coloniser des terres vierges, des terres neuves, là où il n'y avait pas de loi, où par conséquent ils étaient à peu près sûrs de jouir d'une quasi-totale impunité. Si bien qu'il y a une espèce de pègre, n'est-ce pas, qui se crée là-bas, et d'ailleurs c'est un des caractéristiques aussi de l'Amérique. L'Amérique est un pays violent à cause justement de cette conquête de l'Ouest. Et la criminalité américaine, qui est encore quelque chose de très fort, eh bien, née à cette période-là. Et la criminalité américaine va se manifester aussi avec une grande cruauté, n'est-ce pas, vis-à-vis des populations locales. Progression vers l'ouest, alors c'est quelque chose de très particulier, parce que le gouvernement de Washington décide, par exemple, de coloniser telle et telle région. Alors, bon, il y a des fonctionnaires qui sont envoyés pour dire, ben voilà, telle et telle région, parce que, justement, il y a des populations autochtones qui habitent, en général, ces régions, ce sont les fameux Indiens. Les Indiens d'Amérique. Et là, on va assister à quelque chose d'absolument horrible, n'est-ce pas ? Un véritable génocide des Indiens. Les Indiens d'Amérique, qui étaient des populations nombreuses au moment de l'arrivée des premiers colons blancs avec le siècle auparavant, eh bien, vont subir une extermination systématique et programmée, qui n'a rien à envier à l'extermination des Juifs. Finalement, on estime que les Indiens sont de trop et qu'il faut les éliminer physiquement. Et cette élimination va se faire dans des conditions en général horribles. Hein. Les Indiens sont tout simplement expropriés, sans pratiquement aucune compensation. On décide, par exemple, de coloniser, tant de miles carrés, hein, des dizaines de miles, des milliers de miles carrés. Et les Indiens ont 15 jours pour quitter les lieux, faute de quoi on les élimine. On les élimine. Alors, on les paye, il y a des indemnisations symboliques. Le gibier qui servait de nourriture à ces gens-là, notamment les bisons, etc. Tant et si bien que les Indiens ne trouvent plus rien à manger. Et donc, ruinés, acculés à la mort, ils se révoltent. Ils se révoltent. Ils savent être cruels, eux aussi, n'est-ce pas ? Et bon, il y a eu aussi des exemples de cruautés terribles qui ont été le fait d'Indiens. Alors, ce sont des vengeances et contre-vengeances. Quand il y a eu massacre d'une population blanche par les Indiens, les troupes fédérales des États-Unis ravagent les villages indiens, tuent systématiquement hommes, femmes, enfants, vieillards, etc., pour venger justement les crimes qui ont été faits. Et comme les Indiens sont constamment poussés à la révolte par la politique d'expropriation dont ils sont victimes, eh bien constamment, ce sont des massacres, massacre sur massacre d'Indiens. Il y a un autre élément qui va ravager les Indiens aussi à cette période-là, c'est l'alcool. Les Indiens ne connaissaient pas l'alcool avant l'arrivée des Blancs. Et lorsqu'ils entrent en contact avec l'alcool, ça va être une véritable frénésie, n'est-ce pas ? Mais les Indiens semblent être des gens qui étaient beaucoup plus sensibles à l'alcool que les Blancs. Et l'alcoolisme va donc développer chez eux une mortalité terrible. D'abord parce que les Indiens boivent beaucoup. Et les Blancs leur fournissent généreusement l'alcool parce qu'ils ont vu justement que l'alcool fait des ravages et que, somme toute, c'est beaucoup plus propre de les éliminer par l'alcool que d'aller les massacrer de sang-froid. Des épidémies atteignent ces gens-là qui sont affaiblis justement par l'alcool, notamment les épidémies de tuberculose. La tuberculose élimine aussi des milliers et des milliers et des milliers d'Indiens. En fin de compte, les Indiens vont être parqués dans ce qu'on appelle des réserves. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui en principe la politique officielle. Ça veut dire des territoires qui sont leur territoire, ils sont chez eux, ils ont leur autonomie. Mais ce sont en général les terres les plus mauvaises, les moins intéressantes, où ils vivotent et qui se restreignent de plus en plus d'ailleurs, parce que finalement, il y a toujours des nouveaux colons qui arrivent, et puis que c'est la ruée vers l'ouest, la nouvelle frontière, la ruée vers l'or, le mythe de l'or, l'Eldorado, c'est pas qui poussait déjà les conquistadors espagnols sur les traces de Christophe Colomb. C'est le mirage de l'or, c'était aussi quelque chose de terrible pour les Européens, n'est-ce pas ? L'Amérique était considérée comme étant le pays de l'or. Et de ce fait, n'est-ce pas, les Indiens vont être pratiquement exterminés. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques centaines de milliers d'Indiens aux États-Unis, souvent qui forment une espèce de sous-prolétariat qui rejoint un peu la situation des Noirs. C'est-à-dire, Noirs et Indiens sont des gens qui vont être finalement très proches. Et chose curieuse, il n'y a jamais eu de véritable tentative sérieuse d'évangéliser les Indiens. Il y en a eu, il y en a eu, mais peu. Et ça a souvent tourné court parce que, évidemment, les Indiens se rendaient bien compte que les Blancs n'étaient pas conséquents. D'un côté, ils leur annonçaient l'Évangile, de l'autre côté, ils les exterminaient. C'était pas sérieux, quoi. Si bien que l'Évangile a eu peu d'impact sur les Indiens. L'Évangile a eu un grand impact sur les Noirs, nous l'avons vu il y a un instant, parce que là, ils ont trouvé vraiment des gens qui avaient compassion d'eux, mais avec les Indiens, ça a peu pris, parce que les Indiens aussi étaient dans un état de conflit constant. C'est pas... Et des missionnaires qui ont voulu aller vraiment vers les Indiens ont été massacrés dans des conditions terribles, dans des tortures horribles, comme les Indiens savaient torturer. Ils avaient l'art de la torture poussé très très loin, c'est pas... et c'est pourquoi, finalement, peu de gens osaient s'aventurer vers les Indiens pour les évangéliser. Et jusqu'à aujourd'hui, les Indiens d'Amérique sont des gens qui sont assez peu évangélisés, assez peu touchés justement par le message divin. Alors, si vous voulez, ce sont les caractéristiques de l'Amérique. Maintenant, la ruée vers l'Ouest avait un autre point très important. C'est que non seulement il y avait des fripons de tout poil qui allaient vers l'Ouest, mais il y avait aussi... une espèce de ferveur mystique qui a été aussi, qui est toujours une des marques des États-Unis, qui était au départ les pionniers, n'est-ce pas, les pères fondateurs des États-Unis, les pèlerins du Mayflower, étaient animés par des motifs spirituels et religieux. Et très vite aussi, au XIXe siècle, ont émigré des gens qui, en Europe, étaient persécutés, continuaient à être persécutés. Alors, il y a eu, au XIXe siècle, notamment, l'arrivée de beaucoup d'Irlandais qui étaient persécutés par... d'Irlandais catholiques qui étaient persécutés par les protestants anglais. Les guerres d'Irlande, au XIXe siècle, ont été des guerres terribles. Et beaucoup d'Irlandais, poussés à la fois par la persécution et puis aussi par la pauvreté, parce que l'Irlande était pauvre et les guerres n'arrangeaient rien dans ce domaine-là, ont fui et se sont réfugiés aux États-Unis et sont devenus l'embryon d'une importante communauté catholique qui était inexistante jusqu'alors. Sont arrivés aussi alors des gens de l'Europe de l'Est qui étaient aussi persécutés pour diverses raisons, des Polonais, des Lituaniens, des Allemands, des Russes, etc. Et puis, à la fin du siècle, quand l'antisémitisme est devenu vraiment un problème, alors il y a eu aussi beaucoup de juifs d'Europe centrale en particulier, qui ont fui l'Europe centrale et la Russie à destination des États-Unis. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la majorité de la population juive du monde habite aux États-Unis. Il y a 6 millions de juifs aux États-Unis qui sont les descendants de ces gens qui sont venus essentiellement au 19e siècle. Ça. Alors, si vous voulez, parmi ces gens qui venaient, par exemple aussi les fameux Amish, les Ménonites, des groupes de Ménonites persécutés, ont fui aussi les Uthériens, enfin tous ces gens-là. Et tous ceux qui avaient justement un particularisme religieux, qu'on qualifierait aujourd'hui de groupe sectaire, quand ils étaient inquiétés, prenaient le chemin des États-Unis, qui était considéré comme le pays de la tolérance et de la liberté. Et là-bas, tous ceux qui étaient donc religieux avaient droit de citer sans aucune restriction. Ça, c'était le bon côté des États-Unis. De ce fait, des gens sont partis, et sont partis aussi avec une espèce d'idéalisme en disant les États-Unis, l'Amérique, c'est la liberté, et en quelque sorte, c'est la terre promise. Et des mouvements messianiques ont vu dans l'Amérique une espèce de nouvelle terre promise. L'épopée d'Israël, l'épopée biblique, l'épopée d'Israël telle qu'elle est dépeinte dans la Bible, a toujours enflammé les imaginations. a vu par exemple que les Cévenols aussi avaient conscience de revivre un peu l'épopée biblique des Maccabées ou de Josué, etc. Donc il y a certains dans les endroits des Cévennes qui s'appellent Bethléem, Nazareth, etc. La sortie au désert, la femme qui va au désert pour y être protégée, tout ça c'était dans l'imaginaire Cévenol très fort. Et c'était pas simplement chez Cévenol, c'était aussi chez beaucoup de groupes persécutés qui ont vu dans les États-Unis, qui ont vu dans l'Amérique une nouvelle terre promise. Et alors, des groupes très curieux sont nés aux États-Unis à la suite justement poussés aussi par cette vision, et notamment qui ont accompagné cette poussée vers l'Ouest. Et parmi un des mouvements les plus curieux, c'est le mouvement de Joseph Smith, qui a prétendu, qui était un homme de basse extraction, pas très très très, enfin une espèce de hors la loi, un peu comme l'étaient beaucoup de ces gens-là qui partaient vers l'Ouest à cette période-là. Et il était buveur, querelleur, il avait été condamné pour des larcins divers, et il a décidé donc de partir vers l'Ouest pour se refaire aussi une virginité, comme on faisait quand on était dans une situation de ce type. Mais lui avait une autre vision. Il avait une vision spirituelle, mystique, plus exactement que spirituelle. Il a prétendu avoir eu une révélation. Et un ange, l'ange Maroni, lui a été apparu. Et l'ange Maroni lui avait révélé que, en fin de compte, les Américains, les premiers qui étaient venus, étaient des gens qui étaient les descendants des 10 tribus perdues d'Israël. Ça, ce mythe des 10 tribus perdues d'Israël aussi, ça a enflammé beaucoup d'imagination, tant au milieu juif qu'en milieu chrétien. Et enfin, pas le mythe, il y a eu les 10 tribus perdues, mais enfin, on a fabulé sur cette réalité historique de la dispersion des 10 tribus. Et donc, les 10 tribus, en fin de compte, avaient traversé l'Atlantique et était venu s'établir aux États-Unis. Vous savez, c'était un petit peu ce que pensait Christophe Colomb déjà, quand il a vu les premiers Indiens, il croyait que c'était descendant des 10 tribus, c'était pas nouveau. Et donc, ils étaient venus justement sur la révélation de l'ange, l'ange Maroni, ce même ange qui apparaissait à Joseph Smith. Et là, parce que justement, les États-Unis, l'Amérique, étaient la nouvelle terre promise, la nouvelle terre d'Israël. Et Dieu avait programmé de toute éternité de reconstruire Jérusalem aux États-Unis. Et Joseph Smith était le prophète, Dieu l'avait choisi pour être le prophète, qui allait conduire le peuple vers l'endroit où le Seigneur allait reconstruire la nouvelle Jérusalem. Preuve en était, c'est que l'ange Maroni avait donné une révélation de Dieu, n'est-ce pas ? Qu'il avait écrite sur des tablettes, ou c'était pas des tablettes, c'était quelque chose des rouleaux d'or, quelque chose comme ça, ou de cuivre, je ne me souviens plus, et qui avait été enterré par les premiers qui étaient arrivés. Et l'ange disait d'aller creuser un certain endroit, qu'il allait trouver ces tablettes mystérieuses, sur laquelle était écrite, il y avait une écriture mystérieuse, mais que Joseph Smith, à l'exemple de Mohamed, allait pouvoir déchiffrer parce que l'ange allait lui traduire. Et sous la dictée de l'ange, donc, Joseph Smith a copié, n'est-ce pas, la traduction des tablettes qui a donné ce qu'on appelle le Livre de Mormon. Le Livre de Mormon que vous pouvez vous procurer ici, Place de la République, si ça vous intéresse, est en principe la traduction par Joseph Smith des tablettes qui ont été révélées à l'ange Maroni. Et à partir de là, le Seigneur a ordonné à Joseph Smith de se mettre en route vers l'ouest, parce qu'évidemment, la nouvelle Jérusalem devait être construite quelque part vers l'ouest, l'ouest étant la fameuse terre promise. Joseph Smith a prêché sa doctrine, bien entendu, dans l'Amérique du XIXe siècle, où toutes les doctrines avaient droit de citer, une doctrine de ce type-là trouvait immédiatement du succès. Il a rassemblé un certain nombre de partisans autour de lui, et ça a été le départ vers l'Ouest. Mais par contre, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Joseph Smith, qui était aussi un homme assez particulier sur le plan des mœurs, estimait que La polygamie était quelque chose de tout à fait possible, de tout à fait respectable, vu qu'elle n'était pas interdite par l'Ancien Testament, que les patriarches pouvaient avoir plusieurs femmes, que Moïse et que David et Salomon surtout avaient eu de nombreuses femmes, etc. Bon, il a voulu rétablir dans sa doctrine la polygamie. Bon, l'État américain est très tolérant. Mais là, c'était un peu trop quand même. Ça touchait aux principes élémentaires des droits de l'homme, pour lesquels, n'est-ce pas, l'union monogame était la base. Là, Joseph Smith touchait à quelque chose de fondamental de la société américaine, qui était encore très très marquée par la morale chrétienne à cette période-là. Et il n'était pas question, n'est-ce pas, d'admettre la polygamie. Par conséquent, Joseph Smith a été condamné. Pour avoir contrevenu aux lois de l'État, parce que lui a tout de suite mis sa doctrine en pratique et il a pris plusieurs femmes. Ses disciples aussi, encouragés par un si bel exemple, se sont mis à pratiquer la polygamie, tant et si bien que les premiers mormons, comme on les appelait, ont été persécutés. Ils ont été emprisonnés, puis ensuite libérés. Et alors, justement, a commencé la ruée vers l'Ouest, parce que là-bas aussi, en allant vers l'Ouest, là, on espérait échapper aux lois américaines. Et on pourrait pratiquer librement la polygamie. Alors a commencé l'exode, en quelque sorte, le nouvel exode en direction de l'Ouest. Et cet exode, donc, est devenu quelque chose de légendaire dans l'épopée de l'Amérique, n'est-ce pas? Avec les fameux wagons bâchés, enfin, etc., la caravane des Mormons qui partaient vers l'Ouest, vers la nouvelle terre promise que le Seigneur allait leur montrer, conduit par le nouveau prophète, le nouveau Moïse, qui était Joseph Smith. Joseph Smith a eu un petit peu démêlé parce que finalement, il a fini par, comme il était très querelleur, très bagarreur, que bon, il a fini par se bagarrer, puis il s'est fait tuer dans une rixe. Donc, il n'a pas pu poursuivre sa mission et un de ses lieutenants, Brigham, n'est-ce pas, a pris la suite et est devenu le nouveau Moïse après la mort de Joseph Smith. Et finalement, la caravane des Mormons est arrivée dans le désert de l'Utah, un désert des plus inhospitaliers du globe, n'est-ce pas, brûlé de soleil, et notamment devant le Grand Lac Salé, qui est avec la mer Morte. Des endroits les plus bas du monde et en même temps les plus secs, les plus arides, déserts de sel, pétrifiés comme un petit peu la région de la mer Morte, mais infiniment plus grand que la mer Morte, bien entendu. Et Brigham a déclaré, c'est ici que s'établira la nouvelle Jérusalem, nouvelle Salem. N'est-ce pas? Et donc, les Mormons ont construit auprès du Grand Lac Salé leur capitale, Salt Lake City. La cité du lac Salé, n'est-ce pas, qui est encore aujourd'hui la capitale mondiale des Mormons. Ils ont essayé de faire un paradis terrestre. Maintenant, savoir s'ils ont réussi, ça, chacun l'apprécie comme il veut. Mais enfin, les Mormons sont devenus là-bas, donc, un des éléments. L'Utah est devenu un État mormon. Au départ, n'est-ce pas, ils ont créé leur État, la nouvelle Israël, qui était entièrement composé de Mormons. Bon, maintenant, évidemment, il n'y a pas que des Mormons là-bas. Les Mormons modernes ont mis un peu d'eau dans leur vin aussi et ils ont renoncé à la polygamie. Mais enfin, l'État de l'Utah est encore un État très fortement marqué par la présence des Mormons. Et les Mormons sont une des composantes de la société américaine avec laquelle il faut compter. Ils ont des missionnaires dans le monde entier. Ils ont une action prosélyte très importante. Dans nos pays, ils sont considérés comme sectes. Par rapport à la Bible, ils le sont. C'est indéniable, c'est indiscutable. Ils ont des vues qui sont tout à fait hérétiques, même sur Jésus, des choses comme ça. Mais enfin, ils ont marqué aussi cette épopée, justement, des États-Unis. Alors voilà, si vous voulez, les éléments historiques qui, sur la toile de fond sur laquelle vont naître justement les réveils américains authentiques, cette fois-ci, du 19e siècle. Non pas que le réveil parmi les Noirs n'était pas un réveil authentique, mais sur cette toile de fond d'événements violents et cocasses, n'est-ce pas, va naître justement un christianisme américain, un protestantisme américain quand même très spécial jusqu'à nos jours. Voilà, est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus?